C'est une bonne question et j'espère pouvoir m'épanouir pleinement dans le futur.
Alors, pour terminer cette chronique, as-tu un conseil, une actualité ou une lecture à nous partager ?
Alors, je suis en train de lire La vie secrète des arbres, qui est en fait, pour moi, assez complémentaire à tout ce que je connais en agriculture urbaine, parce que le système que constitue la forêt est très complexe et encore assez peu compris par l'homme. Et moi, en tout cas, ce sont des thématiques que je ne connais pas beaucoup, donc je trouve que c'est un livre très chouette qui permet de comprendre toute la complexité de la communication végétale, notamment entre arbres. Et c'est inspirant, ça montre à quel point l'homme devrait davantage s'inspirer des forêts pour les aménagements paysagers en ville et la nature en ville, notamment en ce qui concerne les plantations d'arbres qui sont quand même essentielles et pour moi très complémentaires de l'agriculture urbaine.
Merci beaucoup, Charline.
Merci.
Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. À bientôt.
Un autre podcast Radio G, c'est tout de suite.
Radio G. Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont...
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Dans quelques instants, la case de Seb. Au menu de ce soir, on va parler de polar, comme tous les 15 jours. On va parler également de séries, on va parler de manga et puis on va parler aussi d'autres trucs. Mais d'abord, générique.
Sauvez-vous tous! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. On est en force et en nombre ce soir, puisque je suis avec Luc. Bonsoir Luc.
Salut Seb.
Je suis également avec Fabien. Salut Fabien. Ah, attends, j'ai pas mis le bon micro, pardon. Vas-y Fabien.
Salut Seb.
Je suis également avec Nolwenn. Eh ben décidément ça veut pas. Vas-y Nolwenn.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Et avec Richard.
Bonsoir.
Eh ben on est sur une team au grand complet ce soir, fabuleux.
Il n'y a plus de micro.
Il n'y a plus de micro. Ça tombe place. Bien. On n'a pas besoin de beaucoup trop de monde non plus. C'est pas hyper intéressant si on est trop nombreux.
Ouais, on a, c'est vrai.
Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Souvent d'ailleurs.
Souvent.
Ouais, mais pas trop.
Mais pas trop. De quoi on va parler ce soir? On va parler de plein de choses. Je pense qu'avec Fabien, on avait une petite émotion particulière à partager déjà ce soir, puisque vous l'avez sans doute appris dans les journaux, il y a un certain monsieur qui est décédé. Alors, moi, ça m'a fait un choc de l'apprendre à rebours, en fait.
Oui, bah oui. Alors déjà, ouais. Alors moi, déjà, quand je l'ai appris, j'avoue que j'étais à la boutique en train de cuisiner et puis bah, je me suis arrêté. Clairement, ça m'a vraiment fait bizarre. Ouais. Donc, on parle de la disparition d'Akira Toriyama. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est l'auteur de Dragon Ball.
Papa de Dragon Ball, entre autres.
Papa de Dragon Ball, entre autres, parce qu'il a fait aussi d'autres choses.
Luc, tu l'as?
Dragon Ball.
Oui, totalement.
Ok.
Totalement. Je maîtrise parfaitement. J'ai lu le tome 18, est passionnant.
D'accord.
Non mais ouais, c'est vrai que ça a fait moi personnellement, c'est vraiment mon enfance, donc je suis parti de là au niveau des mangas. Je suis cette génération là, donc je suivais le mercredi matin Club Dorothée, les dessins animés, les animés de l'époque. Et du coup ouais, ça m'a fait vraiment vraiment bizarre. Donc du coup bah tout à l'heure ou dans quelques minutes, je vous parlerai d'un de ces one shot pour faire un petit hommage sans vouloir parler d'une de ces grosses séries que tout le monde connaît, histoire de de parler un petit peu d'un autre titre.
Ben oui, parce qu'effectivement, mais je pense que comme beaucoup de personnes, Akira Toriyama a mené vers le manga. Alors même si c'est pas les premiers mangas que j'ai dû lire, c'est sans doute les premiers mangas que j'ai dû voir ou les premiers mangas avec lesquels j'ai discuté avec les camarades. On a toujours fait des petites batailles de qui aime le plus fort. Et j'avais une affection particulière pour Vegeta parce que c'est un méchant qui se reconvertit.
Voilà, oui, bah de toute façon, dans les cours de récréation. À notre époque, c'était Dragon Ball.
C'était Dragon Ball. Clairement. Et ouais.
Émission très générationnelle.
Ouais, mais en même temps, on a plusieurs niveaux de génération. Hein.
C'est bien ce que je dis.
Non, ça c'est cool. Je trouve que c'est vraiment agréable. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus ce soir, on va avoir plein de chroniques diverses et variées. Que ce soit Fabien avec du manga, moi avec plutôt du comics du coup. Nolwenn, tu seras sur du manga parce que
j'ai
t'as fait tes devoirs.
Complètement. Ça y est, je vais valider mon stage là. C'est bon.
Fabuleux. T'auras droit à ton vrai micro.
Trop
et
bien.
Puis on a Luc qui nous parle toujours de polar. Toujours là, par contre, sur la BD franco-belge, hein, c'est ça.
Là, on revient à la BD franco-belge, hein, au gore BD franco-belge.
Ah ouais, à ce moment-là.
Oui.
Eh ben écoute, cool. Ok. Qui veut lever la main pour commencer? Vous battez pas, sinon j'y vais moi.
Ah ben, pour changer, on te sent pressé.
Allez, hein, je suis motivé. Alors je vous ai fait une, j'ai fait une chronique, j'ai fait une feuille. Je vous laisserai vous la partager. Du coup, j'ai pas imprimé cette feuille. Je crois que ça commence par Luc.
Non, ça commence pas moi.
Ça commence par toi. Ok. Hop.
Richard, il vient que pour faire les relances.
C'est ça.
Non, mais c'est bien. Du coup, mais il les fait super bien.
Et
envoyer
des pics.
Envoyer des pics.
Bah ouais, il les fait bien et puis allez. Ses relances sont mieux que ses chroniques d'ailleurs.
Oh,
allez, bim.
Bon, moi je sais de quoi je parle.
On va l'appeler Scud Radio. Ah là là.
Allez, règlement de compte, faites vos paris dans le chat.
Ah non, mais ça va être.
Oui, c'est vrai, t'as pas parlé du chat.
Non, j'ai pas parlé du chat. Vous pouvez, faut que je l'ouvre d'ailleurs parce que sinon vous allez pouvoir parler dans le vide tout seul sans nous. Il y a toujours le chat sur le www.radio-g.fr où vous pourrez aussi retrouver juste après le podcast de la radio de l'émission qu'on vient d'avoir. Hop. Alors, on va commencer. Je vais vous parler d'une œuvre qui a marqué beaucoup de monde par son aspect innovant, par son traitement des personnages, mais surtout par son histoire captivante. Je parle bien entendu d'Avatar.
De James Cameron ?
Non.
Ah bon, alors je l'ai pas vu.
Ah, mais celui de James Cameron, tu l'as vu du coup ?
Oui.
D'accord, mais c'est pas celui-là qu'on parle. Ah. Okay. Donc je vais pas parler du film. Si j'entends dire terre, air, feu.
Ah bah oui, non mais c'est trop facile. Earth, Wind and Fire. Et tout le monde de danser dans le studio.
C'est ça, on se trémousse, mais c'est surtout pas ça, puisque vous avez décidé de pas m'aider ce soir. Je parle du jeune homme chauve avec une flèche sur le crâne.
Là, écoute, faut que tu sois plus précis, Sam, là, parce que...
Ok, alors je vais mettre...
Le fils de Guillaume Tell.
Ça pourrait, mais c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Je vais vous parler d'Avatar, une série créée en 2005 pour la chaîne de télévision américaine Nickelodeon par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko. Je suis sûr que son nom est mal prononcé, mais c'est pas grave. C'est une série qui a été, par certaines personnes, qualifiée d'anomalie, puisque la série se démarque fortement des productions habituelles du diffuseur, parmi lesquelles on compte Bob l'éponge, Bienvenue chez les Louds, ou encore Monster High. Alors, pourquoi c'est une anomalie? Puisque cette série raconte comment Aang, un jeune garçon, va être amené à rétablir l'ordre dans un monde où quatre nations se font la guerre. La nation du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Enfin, plus que trois, vu que la nation du feu a exterminé la nation de l'air il y a une centaine d'années. Mais pourquoi tant de violence, me direz-vous?
Mais pourquoi tant de violence, me direz-vous?
Eh ben, c'est à la fois tellement simple et tellement triste. Dans ce monde, certaines personnes sont capables de maîtriser les éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, et ce, en fonction de la nation d'où vous venez. Mais il y a un être qui est capable de maîtriser tous les éléments sans limitation, l'avatar. Cet avatar a pour particularité de naître selon un cycle défini dans chacune des nations à tour de rôle. La nation du feu a voulu hâter, avec les guillemets, le processus en empêchant l'avatar de rejoindre la nation de l'air. Alors, en faisant un truc hyper simple, un génocide. On va trucider tous les gens de l'air, et comme ça, au moins, on est sûr. Mais leurs plans ne se sont pas déroulés comme prévu, puisqu'un concours de circonstances fait que Hang, un jeune garçon, a survécu isolé du monde pendant une centaine d'années. Et grâce à deux personnes de la tribu de l'eau, Hang va revenir et découvrir l'immense fardeau de la responsabilité d'être le sauveur du monde lorsqu'on a seulement une dizaine d'années.
Enfin là, c'est plus un résumé que tu nous fais là, hein. Tu nous racontes toute l'histoire.
Ah bah, il faut bien, puisque c'est une série animée qui est maintenant terminée. Alors vous allez pouvoir la redécouvrir sous la forme de la série live action qui est sur Netflix, mais c'est une série qui est terminée depuis maintenant quelques années. Donc si vous connaissez pas l'histoire, bah, malheureusement, voilà.
Et du coup, quel rapport avec la BD ?
Eh ben, je vais profiter de la sortie de la série Netflix, qui est vraiment très bien au passage, hein, pour vous parler de son univers étendu. En effet, Avatar a eu tellement de succès qu'il a eu une suite avec Korra, l'avatar suivant, qui est un avatar du monde de l'eau, mais qui a aussi été adapté sur de nombreux médias. En effet, films, séries, live action, jeux vidéo, romans, jeux de rôle, et surtout en BD, ou plutôt devrais-je préciser, en comics. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau du 9e art, ils se sont pas contentés de faire une banale adaptation, alors ils en ont fait quand même, hein, mais ils ont étendu l'univers, et pas qu'un peu, puisque plusieurs ouvrages ont permis de décrire ce qui se passe après les séries dédiées à Hang et Korra. Et j'aimerais m'attarder un peu sur la série publiée depuis 2021 chez Hachette Comics. Alors, vous les voyez pas, vous, chers auditeurs, mais ce deux gros bébés de 240 pages chacun, alors il y en a 5 actuellement, moi j'en ai que 2, et c'est une série qui fait directement suite aux événements de la série, et il est quand même difficile d'en parler sans divulgâcher la série d'origine, mais je vais faire au mieux.
Ah oui, attends, pas de spoil, je suis en train de regarder.
Ok, pas de problème. Bon, rapidement, quelques mois après la fin de la Grande Guerre, l'équipe de l'Avatar tente de soigner les plaies de cette guerre qui a duré plus d'une centaine d'années. Mais c'est plus simple à dire qu'à faire. En effet, malgré les bonnes volontés des seigneurs du feu et de la terre, certains nœuds semblent plutôt complexes à défaire. Alors, je vous laisse imaginer une zone étrangère où se seraient installés des colons depuis une centaine d'années et qui en demanderaient d'abandonner leur vie construite sur ces terres et de rentrer chez eux. Mais c'est où chez eux ? Alors, si ça fait résonner dans votre tête quelque chose de bien réel, c'est plutôt normal.
En effet, oui.
Et c'est là toute l'intelligence de cette série, puisque depuis ses débuts, Avatar ne sombre pas dans le manichéisme et montre que des zones de gris sont présentes partout. Tous les personnages ont à un moment ou à un autre eu des cas de conscience jusqu'à remettre en cause leur propre morale ou habitude. Avatar, c'est une série chère à mon cœur de par son écriture de ses personnages et son intelligence à se faire poser des questions éthiques et morales, même aux plus jeunes. Et tout cela sans pour autant négliger l'aspect aventure et humour. Pour moi, c'est une pépite, je vous le dis.
Et côté graphique alors, ça donne quoi à cet Avatar ?
Eh bien, c'est de ce côté-là, c'est un peu plus compliqué, puisque les auteurs ont voulu garder des sensations dans le même esprit que la série d'animation. Du coup, on a un dessin plutôt lisse, dynamique, on est sur de la ligne claire, qui repose sur des aplats de couleurs. Les décors sont bien présents, c'est plutôt riche, mais le découpage, c'est un découpage très rapide, qui rappelle ce qu'on peut retrouver dans l'animé. On notera, à la fin de chaque ouvrage, un petit cahier qui explique le travail d'adaptation, et qui permet notamment de comprendre ce qui a été nécessaire de faire au niveau des costumes pour plus de lisibilité. À mon sens, c'est pas un album moche, mais les amateurs de 9e art pourraient ne pas y trouver leur compte. De toute façon, c'est pas à eux que se destine cet album. L'essentiel, c'est surtout que les fans se reconnaissent dans cette série et qu'ils y retrouvent facilement tous les codes et les sensations fournies par la série d'origine. Si j'ai un seul bémol à mettre, c'est ça vient probablement de la traduction, c'est qu'on a certains textes qui semblent un petit peu en décalage avec l'action, ce qui donne une sensation un petit peu bizarre. Mais j'ai pas pu comparer avec les versions US, donc dans le doute, pas de mauvais point pour Hachette. C'est peut-être déjà un souci qui figure dans la version US. Alors, vous l'aurez sans doute compris, moi j'adore Avatar, c'est une série qui me permet de continuer à suivre les aventures de Hang et sa bande en BD, et ce, de plutôt belle manière, puisqu'on a vraiment une histoire qui est très prenante et qui pose pas mal d'enjeux et de questions. Il y a à noter qu'Hachette vient de sortir, donc continue en fait cette série-là. Il y aura un nouvel album qui s'appelle Les Aventures Perdues qui devrait sortir, donc qui sera le 6e de cette série. Et on a aussi un autre album plutôt destiné à un public jeune qui regroupe plutôt des séquences humoristiques et qui part du principe que ses amis vont essayer de déterminer une date d'anniversaire à Hang, puisque bah, comme ça fait 100 ans qu'il est enfermé dans de la glace, c'est quoi son anniversaire final ? Mais ça, peut-être que je vous en reparlerai bientôt. En attendant, ne boutez pas votre plaisir avec ces 5 albums qui sont actuellement parus aux éditions Hachette. Il y a 240 pages à chaque fois. C'est plutôt dense, donc c'est plutôt cool à avoir. Vous connaissiez tous Avatar déjà autour de la table ou...
Alors, j'ai jamais regardé. Je sais qu'apparemment, c'est vraiment une série qui vaut le coup. J'en entends beaucoup parler, que ce soit par des créateurs de fiction ou même des influenceurs et tout ça. Et j'ai pas encore pris le temps, non. Mais ça a l'air trop bien, en vrai.
N'hésitez pas. Nelouet ?
Ouais, j'ai entendu parler et j'ai conscience du lore de l'univers. Enfin, je pense que c'est très c'est dense en fait.
Ouais.
Et pareil, j'ai peur de me lancer dedans et de m'y perdre. Donc, il faudrait que je prenne le temps quand même de zioter un peu, de m'y intéresser.
Peut-être qu'il faudra. Fabien,
bah, pareil pour derrière. Moi du coup. Ouais, je suis caché derrière les micros. Non, bah pareil que Richard, j'en entends beaucoup parler, même parce que j'écoute pas mal de podcast manga et tout, et même là, il y a souvent des références à Avatar, certains qui apprécient énormément. Et le lore a l'air vraiment très sympa. Faudrait que je tente le coup, surtout aussi avec mes enfants pour le coup. Je pense que ça peut être une vision commune sympathique.
Je donne un tout petit peu de détails. Enfin, Luc,
parle. Luc, tu l'as vu?
Non.
Même pas entendu parler non. Ou pas du tout?
Non.
Non, c'est une grosse découverte du coup.
C'est plus qu'une découverte là, c'est une révélation.
Ok. Hein
Toi, tu as vu la série animée?
Moi, j'ai vu la série animée, donc qui est composée de 4 saisons,
c'est ça.
Une par élément, et qui en fait retrace le périple de Aang et ses camarades dans la maîtrise des divers éléments jusqu'à la résolution du conflit avec la Nation du Feu. C'est une série qui compte 88 épisodes. Donc c'est quand même un petit peu dense. Après, vous avez la série Netflix qui est plutôt de bonne facture et qui recondense tout ça en, pour l'instant, 8 épisodes. Il y aura sans doute 4 saisons si on veut garder le même rythme. Pour l'instant, la série, je ne l'ai pas fini.
Oui. Il dure combien de temps, les épisodes ?
Sur Netflix, on est sur 1 heure à peu près d'épisode.
Ok. Ah, et oui. La série de base ?
Ça doit être du 20.
La série de base, on est sur du 25-30 minutes.
Ok.
Donc ça se fait vachement bien. Et n'hésitez pas avec des enfants parce qu'il y a vraiment pas mal de... comme je le disais dans la chronique, c'est pas manichéen du tout. Il y a plein de conflits moraux qui se font. Voilà, je veux pas raconter. Enfin, c'est une série qui commence à avoir un certain âge, donc maintenant raconter des détails, c'est un petit peu moins complexe. Mais on a des personnages qui, grâce à leur maîtrise, vont accéder à certains niveaux d'utilisation qui peuvent leur poser des problèmes de conscience. Ils peuvent prendre l'avantage sur certaines personnes, mais est-ce que parce qu'ils sont capables de le faire, ils vont le faire ou pas? Et ça leur pose vraiment des problèmes selon leur éducation. Et c'est vraiment hyper important et intéressant de voir tout ça. C'est une série qui parle d'esclavage, qui parle de torture, mais à un niveau enfant.
Ok.
Mais ouais, après, cette série, vraiment, on entend beaucoup parler tout ça. Et quand elle est sortie, elle n'était pas accessible à tout le monde puisque c'était Nickelodeon.
Nickelodeon,
et donc,
ouais.
Une chaîne payante et tout ça. Et ouais, en fait, quand tu dis que c'est de 2005, je me prends le coup de hey, c'est un 20 ans en fait, quand même.
Ouais.
Ouais. Mmh.
Ça te rajeunit pas, ça. Hein.
Non. Il y a des gens de 20 ans ici.
Et il y en a qui n'en
ont. Tu vises qui là? J'ai même pas 20 ans. Je suis plus vieille que ça. J'ai l'âge de la série en fait.
Ouais, ouais.
Bah voilà. Merci. Me rajeunit pas trop. Hein.
Non, mais c'est. Enfin. J'ai vraiment un amour pour cette série et sa suite, Korra, qui subit le même traitement en fait chez Hachette. Il y a aussi une série de BD qui raconte la suite de l'histoire et je trouve ça hyper intéressant quand on prolonge en fait quelque chose au-delà en fait de la série principale. Et ben c'est arrivé. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec Dragon Ball par exemple, on a aussi prolongé en fait par certains aspects, ce qui s'est passé dans la série principale.
Oui, tout à fait.
Et dans les mangas.
Ouais, après, il y a du bon et du moins bon, forcément.
Oui, on est d'accord.
Mais voilà, après, en effet, ça a le mérite de proposer d'autres choses autour de l'univers, quoi.
C'est clair.
Dragon Ball GT.
Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas.
Je voudrais juste revenir sur, du coup, t'as fait passer les comics.
Ouais.
On a pu les avoir entre les mains. Et moi, je m'attendais à avoir un trait très détaillé. Très très complet, vraiment qui décrit l'univers. Et en fait non, c'est hyper c'est très pur, c'est très simple. Et du coup ça rappelle, je pense, l'esprit initial de la série qui s'adressait à des enfants. Enfin, c'est pas lourd du tout à regarder
en fait.
C'est vraiment, même au niveau des couleurs, il y a juste l'ombre et la lumière et c'est tout, il y a pas plus que ça.
C'est hyper accessible. Même si le bouquin fait peur parce qu'il est gros.
On a 240 pages qui se lisent assez vite parce que justement on a ce découpage, on a ce trait qui est
les
hyper
fluide. Les cases sont grandes aussi.
Et ils ont voulu vraiment rester très proche de ce qui pouvait se trouver dans la série, même si un bon fan de la série verra les grosses différences, les têtes sont un peu plus petites. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de petits détails qui font que c'est une vraie adaptation et c'est pas juste on a pris des images comme on peut le faire dans d'autres séries, mais je vous expliquerai ça juste après. On en reparlera juste après. On se fait une petite pause musicale parce qu'on a bien avancé sur la série et on va faire des pauses courtes. Mais je voulais faire un petit hommage quand même avec à Akira Toriyama, avec le générique de Dragon Ball Z, Shala et Shala. N'hésitez pas à prendre vos micros et hurler chez vous. C'est un petit plaisir à se faire. On se retrouve dans quelques instants. Fly away,
空を越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え越え
par Hironobu Kageyama sur le 100.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. On est toujours super nombreux. De quoi ? J'ai dit une bêtise ?
T'as dit une bêtise ?
Ah bon ?
C'est l'ouverture de Dragon Ball Z.
Oui, j'ai dit une bêtise. J'ai oublié le Z.
J'ai dit Dragon Ball. Ouais.
Ah oui, c'est l'ouverture de Dragon Ball Z, pardon.
Oh là 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 là, quand on entre dans des débats comme ça, là c'est le top. Là.
Bah ouais, il avait l'air ultra, il a tout de suite remarqué.
Il était en train de prendre son mouchoir, il allait encore saigner du nez.
Mais il n'y a pas de différence dans le manga.
Non,
Dragon Ball Z n'existe même pas.
Voilà. Non, c'est ça, c'est 42 tomes et tout ce qui se passe après n'existe pas de toute façon.
Ah, heureusement qu'il y a un modérateur dans cette émission.
Je vais enchaîner très rapidement. On va pas aller super loin non plus.
Je viens de voir le livre. Oui.
Alors, moi j'ai un côté hyper fleur bleue. Il y a plein de séries que j'aime, j'adore My Little Pony et j'adore aussi Total Spy.
On dirait un Ajada pour collégien.
Ah mais oui, je suis complètement désolée.
De cinquième.
De collège.
Oui, bah oui.
Alors, je voulais mentionner ça parce que ça reste quand même quelque chose qui est assez particulier. Là, j'ai plus le terme exact. C'est du visuel animé en fait. En gros, on reprend une série animée, on fait des extraits de la série, on les met en case, on fait un agencement et on met du texte par-dessus.
C'est un style roman.
Ça avait été fait
BD.
Sur du Ghost in the Shell, par exemple, en manga. Je sais pas
d'accord.
Si tu te rappelles.
Alors, Ghost in the Shell, je vais le voir demain soir au 400 coups.
Ah bah, écoute,
mais voilà. Mais non, par contre, j'ai pas vu l'adaptation.
Je pourrais te le prêter, ça, si tu veux.
Ouais, pourquoi pas.
En gros, faut imaginer en fait que vous redécoupez la série, vous refaites une pagination et vous avez les épisodes de la série en version papier. Et c'est ce que les éditions Vega Dupuis, elles ont fait avec Totally Spies, une série qui est à la fois complètement loufoque, tellement drôle et tellement, ça détend en fait, qui suit l'histoire de trois jeunes filles, Clover, Sam et j'ai perdu
Alex.
Et Alex, qui sont trois jeunes filles, trois lycéennes qui sont aussi membres d'une organisation d'espionnes sous la direction de
Jerry.
De Jerry.
C'est pas lycéenne, c'est des... elles sont à la fac.
Elles sont à la fac. Ouais, bah, c'est pareil, hein.
Collège, fac.
C'est du college, en anglais. Voilà, basta. Ouais. J'ai raison. Et, elles subissent des aventures. Alors, elles sont, c'est des espionnes qui ont des accessoires comme des poudriers, communicants.
Le comme poudrier.
Des, ouais. Des sèche-cheveux qui tirent des rayons laser.
Alors, je suis la seule fille autour de cette table. Sachez que ces accessoires sont vrais.
Ça marche pour de vrai?
Ça marche pour de vrai. On a vraiment
trop
ça.
Bien.
Ah, putain. Mm.
C'est à ce moment où je regrette de pas être une fille.
Ça comme ça?
Bah oui, bah au bout d'un moment.
Ça vend du la mèche là.
C'était quand ta dernière mission?
Oh bah, tu t'es jamais là de toute façon, donc je sais pas. Hein.
Il faut savoir que Totally Spies, c'est une série d'animation qui a plutôt bien fonctionné, qui est plutôt complètement barjo.
Et
ce que ça se prend, chaque épisode est vraiment indépendant. Il y a pas de grosse storyline. Non, je dis des bêtises.
Non, mais oui. En fait, Totally Spies. Sur le fond, elle a l'air assez banale et tout ça, mais l'histoire est vraiment cool. C'est une série qui se prend pas trop la tête. C'est français.
Ouais.
De base, c'est français. Je sais pas où t'allais, mais voilà, juste, c'est trop cool.
Moi, je voulais juste.
Parle, je m'attendais
en
pas
parler,
à
en fait,
parler de
dire que,
Spice.
Voilà, Vega Dupuis propose, en fait, aux gens qu'ils souhaitent, d'acheter ces ouvrages-là et de découvrir la série. Ils le font saison par saison. Chaque ouvrage, qui est quand même assez épais, tu parlais d'un agenda, ouais, voilà, on a vraiment cette épaisseur-là, regroupe plusieurs épisodes et c'est plutôt cool. C'est plutôt bien fait. Si vous avez aimé la série, bah vous retrouvez exactement les mêmes images que celles de la série dedans. Donc voilà, ça fonctionne. C'est très cartoon. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler à la suite d'Avatar, qui est plutôt une transition, alors que là, on est vraiment une retranscription quasi littérale de la série en version papier. Alors, c'est pas du manga, c'est pas du comics. C'est un format manga agenda.
Le découpage fait très penser à du roman BD.
Ben on est là-dessus. Hein. C'est complètement ça. On a ce côté, ouais, je sais pas comment dire, mais alors moi j'aurais tendance, parce que je suis un petit peu vieux, à trouver ça un peu petit, parce que des fois il y a du texte, tu fais, ah, attends, je vais mettre mes lunettes pour arriver à le lire.
Mais c'est pour les enfants qui ont encore une bonne vue.
Oui, c'est ça. C'est pas moi du coup.
T'es pas le public.
Mais petite mention aux éditions Vega Dupuis, il y a des adultes qui lisent ça et pensez à un grand format.
Augmenter la taille de la police.
C'est ça. Donc voilà, moi je trouvais ça très cool. Voilà, ça paye pas de mine. Ça vous cassera pas le porte-monnaie, mais n'hésitez
mais
pas.
350 pages quand même. Hein.
Voilà.
Ouais, ouais.
Bah c'est voilà, on en a pour son argent. J'ai même pas le prix. J'ai pas regardé.
La couverture est redessinée alors qu'en fait c'est juste des screens des épisodes en fait. C'est très bizarre.
C'est ça.
En vrai, je trouve ça bien comme format pour les plus jeunes qui lisent pas beaucoup, mais qui ont besoin d'une image en fait pour lire et pour. Ça fait un peu en format roman, mais comme il y a un peu d'image. Bah, du coup, ça peut les aider à s'accrocher à l'histoire et mieux illustrer, du coup, les propos qu'ils lisent.
Oui, puis les petites mains permettent de mieux les prendre aussi.
Ouais. Ouais. C'est plus.
Ça se rapproche quand même beaucoup moins effrayant du format manga aussi. Hein.
Ouais, on est très proche du format manga. Hein,
et je pense qu'ils ont copié un peu ça avec la jaquette qui s'enlève à Rabat pour essayer d'amener un peu le public manga sur ce genre de choses. À mon avis, je pense qu'ils essaient un peu d'amener les enfants qui lisent du manga vers ça aussi.
Ben, c'est l'occasion.
Ouais.
Alors, sur la quatrième du couverture, ils appellent ça un anime comics.
Un anime comics, ouais. Okay. Je retrouve le terme exact qui avait été utilisé pour le... puisqu'ils avaient fait... Il y a Evangelion qui existe dans ce format-là, il y a Ghost in the Shell, il y a plein de mangas, en fait, qui ont été... Porco Rosso a été fait en version manga animé aussi, ouais.
Ah ouais.
Mais c'est un manga qui est particulier, parce qu'on a vraiment l'impression de revoir des morceaux du film, en fait, découpés.
Ouais, ok.
Bon. Bref, parce que si on continue sur Totally Spies, on passe toute une émission et on n'aura pas parlé d'autre chose. Puisqu'on est sur des formats un peu petits, manga, Fabien, ça va être ton tour.
Ok, ça marche.
Hop, attention, jingle. Kaizoku Oni, kore wa nare !
Nani ? お前はもう死んでいる。
Et ben toi Fabien.
Alors bah comme dit tout à l'heure, petit hommage à Toriyama, du coup j'avais envie de mettre en avant un de ses one shots que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'avais trouvé d'occasion, parce que très compliqué à trouver. Il s'agit de Kajika, qui est donc, comme je disais, en un seul tome, qui est édité chez Glénat, qui est sorti au Japon en 1999 et en France en 2001. On est sur un shonen d'aventure fantastique. Moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de me replonger un peu dans les débuts de Dragon Ball, avec Goku quand il est petit. Ça fait partie, moi, de ce que je préfère un peu dans Dragon Ball, ces passages-là. On va, de quoi ça parle, en fait, on va suivre le jeune Kajika qui, depuis qu'il a écrasé par jeu un renard sous un énorme rocher, il est possédé par l'esprit du renard. Donc il est devenu mi-humain, mi-animal, et il doit sauver 1000 âmes avant de pouvoir récupérer son corps. Donc alors qu'il est sur le point d'aboutir après 5 ans d'efforts acharnés, Kajika rencontre une jeune fille du nom de Aya. Il apprend que cette dernière est pourchassée par un gang de malfaiteurs qui convoitent l'œuf du dragon qu'elle possède en pendentif. Il s'agit tout simplement du dernier œuf de dragon au monde.
Et quand même.
Voilà. Donc là, on va vraiment partir sur une aventure dans l'esprit Goku Dragon Ball du début, avec beaucoup de paysages désertiques, beaucoup de combats avec le jeune Kajika qui a une âme très gentille au fond, un très bon fond. Et un peu naïf sur les bords, donc on a quand même vraiment
le héros de shonen,
et on sent vraiment le rapport à Dragon Ball. Il aurait pu pousser. On a même presque l'impression que ça peut se passer dans le même monde en fait, au niveau de la façon dont c'est décrit et tout ça. On va avoir un antagoniste qui va arriver assez puissant, avec des combats qui vont se passer au fur et à mesure. On retrouve la patte de Toriyama. Hein, c'est vraiment son dessin. On a aussi un petit personnage qui arrive un peu marrant, avec un peu masqué, comme on retrouve de temps en temps dans Dragon Ball, et tout ça sur un seul tome. Donc vraiment, ça fait du bien de retrouver la patte de Toriyama, cette patte là que moi j'apprécie beaucoup. Pareil, dans certains monstres qu'on va découvrir, il y a du lézard un peu, comme on peut voir dans certains dans Dragon Ball, et donc c'était très plaisant de lire ce tome. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça m'a fait replonger un peu dans mes lectures passées des premiers tomes de Dragon Ball. Donc voilà, j'avais envie de mettre celui-là en avant. C'était pas de ça dont je voulais parler normalement au départ aujourd'hui, mais avec la nouvelle qu'il y a eu la semaine dernière, je me suis dit, tiens, un petit clin d'œil pour pouvoir faire un petit hommage à ce grand auteur rapidement disparu d'un seul coup. Personne s'y attendait trop.
Oui, c'est clair. Et puis c'est rare en fait, parce qu'il y a sortir de Dragon Ball ou de Dr. Slump, on voit pas trop ce qu'il a pu faire d'autre. On citait tout à l'heure hors antenne l'apprenti mangaka, qui est un manga qui vous apprend à dessiner du manga à la sauce Dragon Ball, ce qui est plutôt cool.
Il y a quelques autres one shot aussi. Il y a Jacko, qui est le super héros galactique.
Et qui reste dans l'univers de Dragon Ball.
Dans l'univers de Dragon Ball, ouais, c'est ça, tout à fait.
Mais voilà, un auteur. De toute façon, il suffit juste de regarder les réseaux sociaux et les hommages qui ont été rendus.
Oui.
Il a marqué tellement de gens et tellement de grands noms.
C'est un peu le Dragon Ball avec Goku, c'est un peu le papa de tous les shonen d'après. C'est-à-dire que vraiment, tous les Naruto, tout ce qui est arrivé un peu après, se sont inspirés quand même de Dragon Ball. C'est lui qui a ramené à un autre niveau encore le shonen. Même si avant, il y a eu d'autres choses. Hein. On a eu avec Tezuka, Astro et tout ça, qui a commencé déjà tout ça. Mais lui a quand même ramené cette première pierre à l'édifice aux nouveaux shonen qui sont arrivés par la suite. Quoi. A posé vraiment les bases. Voilà. Ma petite chronique pour rendre hommage.
Merci Toriyama de nous avoir permis de rêver quand on était gamin.
C'est ça. Et puis il fera rêver encore les nouvelles générations parce que les enfants continuent toujours à les lire.
Je pense que ça va vieillir, mais ça restera intemporel.
C'est ça.
Merci Fabien.
Je t'en prie.
Alors, qui veut s'y coller maintenant? Vous faites un duel de Shifumi? Non, Nolwenn? D'accord, ok, on est parti.
J'ai été pointé du doigt, il n'y a eu aucune hésitation de la part de lui.
Écoute, il est 34, c'est l'heure de la stagiaire.
D'accord. Pas.
Alors, tu n'as pas de générique sur la partie animée?
Pas du tout.
Enfin, sur la partie BD, mais bon, on pourra peut-être en faire un.
Je connais un gars.
Tu connais un gars qui fait ça bien?
Ouais.
Un gars qui fronce les sourcils depuis tout à l'heure et qui dit « Oh non, pas cher. »
Pour un pain au chocolat.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, c'est pas mal, c'est du boulot à lui donner, moi, du coup.
Non.
Mais allez, Nolwenn,
pas, pas de générique, mais pas de souci, j'apporte enfin ma contribution à cette émission, hein, malgré ma culture manga qui est proche du niveau zéro, hein, et du côté négatif. Hein.
Bah, puis on t'a à peine forcé.
Bah non, pas du tout. Je suis pas anti-menacée. Non, non, c'est non, non. Mais bon, tu m'avais prêté Warrior Princess and Barbary King avec mon accent anglais. Waouh, à couper le souffle. Alors, j'y connais rien en catégorie de manga. Toi, tu parlais de shonen.
Shonen.
Bref,
ouais.
Je sais pas dans quelle catégorie il s'inscrit. Donc, je ne peux pas développer sur ce point. Je sais même pas ce que signifient ces mots-là, que ce soit shonen, shoujo ou les autres.
Les recherches sont en cours.
On va te dire.
Allez, ce sera le petit point.
Du coup, je peux même pas dire, je l'ai pas lu moi encore, donc je te fais absolument confiance.
Oula, à tes risques et périls. Bon, alors même si j'y connais pas grand-chose, hein, ça m'a pas empêché.
On est sur un seinen.
Un seinen.
Ah, d'après l'éditeur.
Plus adulte, du coup.
Ça m'a pas empêché d'apprécier le volume, hein, de méconnaître la catégorie dans laquelle il appartient. Loin de là. Alors malgré moi, je partais avec un a priori sur les deux héros principaux. Et surtout sur l'héroïne, en fait. Tout ça à cause de la première de couverture. On la voit dans les bras du héros, telle une princesse de conte de fées qui vient d'être secourue. Alors, le héros, quant à lui, il est bien plus intrigant au premier coup d'œil. On ne distingue que ses yeux jaunes derrière l'épaisse armure qui l'habille. Avec ça, je m'attendais à tomber sur un truc à l'eau de rose, hein, vraiment bourré de fanservice. Et en fait, bah, dès les premières pages, on voit une valeureuse chevalière qui mène ses hommes au combat avec honneur face à une horde de barbares. Donc c'est Zerafina, l'héroïne, qui est aussi, au moins aussi bien équipée que le héros tel qu'il est représenté sur la couverture. Elle est lourdement armée. C'est d'ailleurs lui qu'elle va finir par affronter, et malheureusement son échec, eh ben, il va être cuisant face au chef des barbares. C'est à son réveil dans la société barbare que la psychose commence. Zerafina, elle se voit déjà subir les pires tourments par ces hommes incivilisés. Violence, moquerie, esclavage, voire sacrifice. Mais la réalité est pire que ça. Son adversaire, le chef Véor, souhaite la prendre pour épouse, selon la tradition de son peuple. Et là, Zerafina doit confronter ses préjugés sur les barbares et leur culture avec ce qu'elle va vivre réellement au sein de cette civilisation. Entre Véor qui accueille son obligé avec politesse et les guerriers qui l'acclament pour sa valeur au combat malgré son échec, la princesse guerrière, bah, elle commence à remettre en question ce qu'elle croit savoir au sujet des ennemis de son royaume. D'autant plus que la représentation des deux civilisations, elle est clivante. Elle appuie vraiment le conflit moral de Zerafina entre ce qu'on lui a dit sur les barbares pendant son enfance et ce qu'elle observe réellement. Et surtout, on accompagne l'héroïne dans la découverte des contrées sauvages et des bébêtes. Donc vous pensez bien que cette partie, elle m'a intéressée, n'est-ce pas? Et au-delà des designs réussis des monstres, leur intervention dans leur histoire, elle a son importance, parce qu'ils vont venir appuyer pourquoi les barbares sont réputés pour être aussi violents au combat. Pour eux, c'est une question de survie au quotidien, en fait. Au-delà du scénario, le trait, il est agréable. Il n'est pas trop chargé, il est suffisamment détaillé. Il y a quelques scènes qui sont un peu suggestives, mais ça va jamais très loin. Bon, voilà, on voit des tétés, ça arrive. Et après ma lecture, je porte un autre regard sur la première de couverture. Parce que, après avoir lu le premier volume, bah, moi, cette première de couverture, elle me rappelle les premières pensées de Zerafina, celle d'une guerrière déshonorée qui se retrouve à la merci d'un ennemi supposé violent et sauvage. Donc c'est une bonne découverte qui se passe dans un univers d'heroic fantasy que je recommande du coup si vous voulez suivre l'évolution d'un couple qui n'est même pas amoureux, mais bon, c'est la tradition.
Et là, elle est atteinte du syndrome de Stockholm, cette Zerafina?
Non, c'est pas présenté comme ça, vraiment. Bon. Elle lui dit, bah, si tu veux me faire des misères, tue-moi, je préfère mourir avec honneur, mais.
Mais après, elle dit, finalement, elle découvre ces barbares qui sont finalement pas si barbares que ça, enfin, d'après ce que j'ai compris.
Bah, en fait, elle est confrontée au reste. Il y a l'aspect guerrier qu'elle connaît sur le terrain et sur le champ de bataille, et puis il y a l'aspect de la vie de tous les jours avec les familles qui vivent, les maris qui
les partent. barbares sont normaux, c'est dingue ça.
Voilà, donc ouais. c'est presque une éloge à la tolérance. Si on pousse vraiment le truc un peu plus loin, c'est un peu un petit message caché qu'on peut trouver.
C'est là où la couverture est intelligente, c'est qu'on nous met les mêmes préjugés en tête juste en voyant la couverture.
Tout à fait.
Et c'est plutôt cool.
Ça attire.
Pour ceux que ça tente, alors déjà acheter le manga, pour ceux qui veulent juste découvrir avant d'acheter le manga, sachez que vous avez 45 pages qui sont en lecture sur le site de Pika Édition. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Et je l'ai feuilleté en t'écoutant. J'avoue que le dessin est plutôt cool. Hein.
Le dessin est cool et les tenues sont classe, les armures sont classe. Bon, dans le premier volume, Zerafina elle a qu'une seule tenue qui lui est attribuée. Et la tenue est élégante, c'est pas trop vulgaire comme tenue comme on peut retrouver dans certains mangas, non, vraiment c'est habillé comme tenue.
Et puis on voit les armures des barbares, enfin ils foutent vraiment les foies. Hein,
oui.
Ils ont pas l'air, puis les contre-plongées, enfin tout te donne envie de dire fuis.
Oui.
Et ils sont pas gentils, alors qu'en fait un petit peu quand même quoi.
Capturé, hein. Enfin, c'est.
Mais c'est la tradition, en fait. C'est juste.
Ah bah alors, si c'est la tradition. C'est...
voilà, quoi. Il y a le bon barbare et le mauvais barbare.
elle est capturée et enfermée, ou juste, non, juste, il la laisse vaquer
Non, non, elle est capturée, et puis il l'invite à manger, il l'invite avec elle à parcourir les Landes, à faire sa vie, à rencontrer le peuple. Non, elle n'est pas emprisonnée, elle est capturée au moment. De la bataille après la défaite du coup de l'une des deux troupes.
Okay.
Et puis après elle est habillée, elle est nourrie, elle est logée.
Qu'est-ce qui l'empêche de partir?
Bah que elle est sans armure, elle est retenue.
Et elle a pas son sèche-cheveux laser.
Tu te trompes.
C'est bien tenté mais c'est raté. Non, bah c'est en fait c'est deux contrées. À un moment je crois qu'on voit la carte géographique et en fait c'est deux environnements, deux biomes qui sont très différents. Donc en fait, même si elle voulait partir, elle serait livrée à elle-même dans un environnement qu'elle ne connaît pas, sans armes, sans équipement. Bah, c'est la mort assurée, quoi.
Ok, d'accord.
Voilà.
Ok.
Bon, bah, une belle découverte. Tu retireras l'expérimentation?
Si
je te redonne un autre livre.
Ça dépend du livre, s'il est bien, si.
Et tu m'avais pas parlé d'Awaken, que tu aimais beaucoup?
Oui, si, Awaken, si. Ah, non, mais j'ai déjà fait. Mais ouais, mais faudrait que je puisse la finir, la série, et il me montre.
Tu sais que
volumes.
Tu peux venir les lire.
C'est vrai, je connais un gars.
et je les ai lus, moi.
Ouais,
ça y est, je les ai lus, ouais.
Cool. Et moi, je prends une critique à deux voix, comme ça, vous écrivez un truc tous les deux, ça peut être cool. Un double avis sur la même
un
série.
Double avis.
Un double avis.
Double clash.
Un double avis.
Ça, en rap.
Une battle.
Alors wow. Ça, je suis preneur.
Non, vous n'aurez pas ça.
Non.
J'accepte le défi.
Ah bah écoute.
Eh bah vas-y.
Richard écoute. Contre Luc en rap battle, je prends.
Je ramène l'instru, Luc.
Joker, en fait. Je sais bon, pas, j'aurai un mot de mes parents.
Il
n'y
a plus aucun garde-fou, là.
Allez, revenons un peu sérieux, puisqu'on parle de Luc et on te charrie un petit peu. Mais tu as bien une BD à nous parler aujourd'hui.
Oui. Et un étrange album qui a mis des années à voir le jour, presque 30 ans, tellement de temps que même son auteur Tiziano Sclavi en avait oublié l'existence. Je vais vous parler de Zardo, publié en France par les éditions Fordis dans la bien nommée collection Tourment.
J'ai deux questions pour toi, Luc. Est-ce que tu veux ton générique d'abord?
Ben ouais.
Et c'est parti.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Et ma deuxième question, c'est est-ce que cette fois on va être dans du polar vrai de vrai?
Bah, avec un nom comme la collection Tourment, plus que de polar, Seb, c'est dans le gore finalement que je vais te plonger. Parce que du sang, il y en a dans cette BD, et quand il n'y a pas de sang, la couleur rouge sature les pages. En réalité, le calme règne dans la BD pendant précisément deux pages. Et après, tout part en vrille. Mais vraiment en vrille, une vraie vrille de chez vrille. Tout commence avec Francesca. Elle prépare un sac de voyage et sort d'un appartement pendant qu'une femme, Casina, se douche. En réalité, Francesca va rejoindre son nouvel amant, dont on ne connaîtra jamais le nom, et vous allez comprendre pourquoi. Il l'attend dans sa voiture au pied de l'immeuble. Ce monsieur est inquiet. Francesca va-t-elle vraiment quitter l'homme avec qui elle vit? Et pour lui, mais tout va bien et tous les deux regagnent l'appartement de cet homme anonyme. Francesca commence à déballer ses affaires et c'est précisément là, en haut de la page 3, que tout part en vrille. Francesca a oublié sa crème anti-cellulite dans l'appartement de Zardo. L'homme qu'elle vient de quitter, aussi fou que cela puisse paraître, elle demande à son nouvel amoureux d'aller la récupérer. Il est estomaqué, il s'énerve, mais il cède. Il sonne chez Zardo, ça ne répond pas. Mais la porte est ouverte, il entre et devinez quoi ? Il découvre le corps de Zardo dans la salle de bain, la gorge tranchée. Panique générale à bord. Que croyez-vous que l'anonyme va faire ? Eh bien évidemment le mauvais choix, sinon il n'y aurait pas de BD. Il va donc nettoyer le sang et s'en mettre partout, cacher le corps dans une grande valise, là il aura scié une main récalcitrante, objectif le dissimuler dans un trou, dans une forêt. Et là on sonne à la porte. Vêtu juste d'un slip, il va ouvrir, c'est la police qui vient à la demande de voisins qui se sont plaints du bruit. L'anonyme, qui ne peut évidemment justifier sa présence, se présente comme étant Zardo. Il fait visiter l'appartement qu'il a nettoyé, les flics repartent, l'anonyme charge la valise dans le coffre de sa voiture et repasse chez lui avant d'aller enterrer le cadavre. Mais quand il arrive, il trouve un mot de Francesca qui lui dit qu'elle est partie au cinéma avec une copine. Et là, il comprend bien que la Francesca en question, elle n'est pas très nette dans sa tête et qu'il a peut-être commis une erreur en s'engageant avec elle. Et ce n'est que le début de cette affaire dans laquelle il va rencontrer un chien méchant, une soucoupe volante et un privé maître chanteur.
Ça a l'air complètement dingue, c'est pas un petit peu artificiel cette histoire ?
Bah, plus qu'artificiel, c'est tordu, le terme juste. Encore que ce serait trop faible. Pourtant, il illustre la théorie du battement d'ailes de papillon puisqu'une simple crème anti-cellulite va conduire notre personnage principal à commettre plusieurs meurtres et tout ça en une nuit. Ce qui surprend dans cet album, c'est l'enchaînement des événements, presque à la marabout de ficelle. Tout est improbable, mais tout est cohérent. C'est imparable et le dessin d'Emiliano Mamoukari est à l'avenant. C'est de la BD franco-belge, indéniablement. Bon, le personnage principal est graphiquement un peu jeune, un peu angélique, mais c'est quand même raccord avec le scénario. Mais les méchants sont des vrais méchants. Ce qui fait l'intérêt de cet album, c'est que certes, il y a le scénario, certes, il y a le dessin, mais plus que tout, peut-être, dans cet album, c'est la mise en couleur qui est sidérante. Lucas Aponti n'y va pas de main morte. Il retient l'option de la monochromie sur des planches entières, du vert d'eau, souvent du marron, du violet, toujours traité en camailleux. Mais quand la violence se déchaîne, le rouge jaillit de partout, le sang gicle, les scènes avec une feuille de boucher sont magistralement trash. En fait, tout l'album tient au parfait accord entre ces trois réalisateurs, le scénariste, le dessinateur et le coloriste. L'alchimie fonctionne parfaitement, elle suscite un vrai malaise au regard de l'emprise que Francesca exerce sur ce personnage qui va bien malgré lui. Encore que se substituer l'identité de Zardo à la sienne.
Alors attends un petit peu, tu nous as dit que l'album a mis 30 ans à voir le jour, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ?
Ben en fait, Tiziano Sclavi raconte dans le préambule que dans les années 80, enfin du siècle passé, je parle pour certains autour de cette table, bien évidemment. Bon. Il avait écrit un roman, Nero, qu'il avait adapté pour le cinéma. Le film s'appelait aussi Nero. Et il avait été réalisé par Giancarlo Soldi et dans lequel avait joué, entre autres, Hugo Pratt. Et puis, il y a quelques années, Giancarlo Soldi, le réalisateur du film, appelle Tiziano Sclavi pour lui dire qu'il avait retrouvé un scénario de Nero, mais adapté pour la BD. Sclavi l'avait complètement oublié, il le récupère, le réarrange un peu, change le titre, il passe de Nero à Zardo, et le propose aux éditions Sergio Nonelli. Elle lui propose Emiliano Mamoukari, qui a fait une série qui s'appelle Nero chez Dupuis pour le dessin.
Et du coup, cet album, il est publié chez qui?
Alors, il est édité chez Fordis, les éditions Fordis qui l'ont traduit et publié en France. Les éditions Fordis, elles sont nées en 2015. Elles ont été créées par Perle Duriez et Salvatore Bido. On retrouve chez eux plusieurs collections, dont une consacrée au western, qui est vraiment intéressante. Mais on retrouve aussi une collection patrimoine et une autre intitulée L'aventure contemporaine et sociale. Et ils viennent de sortir un album graphique en février 2024, là juste là, de François Miget et Claude Auclair, intitulé Le sang du flamboyant. Un truc assez impressionnant, l'histoire de l'affaire Bourgard en Martinique en 1943. C'est une maison d'édition que moi je connaissais pas, mais qui me semble faire un vrai travail de défrichage. Ils font de la réédition, enfin font vraiment un travail de remise à jour d'un certain nombre de BD. Comme quoi qu'il n'y a pas que les grandes maisons et qu'il faut savoir oser s'aventurer hors des sentiers battus. L'album s'intitule Zardo. Il est de Tiziano Sclavi, Emiliano Mamucari et Luca Saponti, et il est publié par les éditions Fordis.
Eh ben, tout un programme. J'espère que vous ne mangiez pas pendant qu'on écoutait la chronique.
Oui, parce que c'est assez déchaîné.
Il y a des moments où on est plus dans la recette de cuisine que...
Non, mais c'est vraiment un très bel... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un très bel album, très cohérent, très dense. Je trouvais que c'était vraiment bien.
Ça avait l'air, en tout cas. Moi, j'ai même pas eu le temps de les pas ramener jusqu'à moi. Tiens, donc je peux même pas juger.
Le voilà. Bah, écoute, pendant que tu le feuillettes, je vais en profiter pour faire une annonce, hein.
Comment tu prends du temps d'antenne comme ça?
T'as pas une émission du temps comme ça? Mais si, j'ai une émission, oui. J'ai une émission qui s'appelle, bien sûr, Entre les pages, et mercredi, qui a lieu mercredi prochain, à 17h. Et j'ai un invité spécial.
Mais qui est-il?
Qui s'appelle Éric Jussézac. Et qui publie une BD qui s'appelle Erectus, d'après le roman de Xavier Muller. Cette BD, alors mercredi, on sera le 13 mars, et cette BD sort le 14 mars.
Oh, une avant-première.
Donc on est en avant-première, l'émission Entre les pages est en avant-première, et c'est un bel album. Donc voilà, je reçois Éric Jussézac. Pour ceux qui sont amateurs, ben, rendez-vous mercredi prochain.
Bon, le salut, s'il nous écoute, je pense pas, mais au cas où.
Ouais.
Un grand monsieur de la BD.
Oui.
Au sens propre qu'on vous figurez.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Eh ben, écoute, je pense que, tu vois, j'écoute pas beaucoup les autres émissions, mais peut-être que là, je m'y mettrai avec ça.
Ben, j'aimerais bien, s'il te plaît.
Alors, du coup, Luc, t'as amené un exemplaire, ouais. Parce que t'as fait un voyage dans le temps, du coup. Tu as réussi à l'avoir avant qu'il sorte.
Ben c'est ça le comment dire l'art des grands animateurs radio, c'est de voilà d'être en relation avec les grands médias. Non, Eric, il a publié quelques dessins sur ses pages sur les réseaux sociaux et il a annoncé la date de sortie. Et alors ça me permet de réparer d'ailleurs une petite chose que j'ai dite par rapport à Phileas dans une autre chronique. Mmh. J'avais parlé du roman de Nicolas Beuglé, Le Cri, qui avait déjà édité, et j'avais dit que c'était une maison d'édition qui avait pas trop de moyens. Éric Derian m'avait dans un mail qui a suivi m'avait dit. Bon, on n'est pas si petit que ça quand même. Hein. Certes, on n'est que sur les réseaux sociaux, mais et c'est vrai qu'ils ont un catalogue. Ils publient pas beaucoup, mais ils ont un superbe catalogue. Et donc voilà, j'étais resté en contact avec eux. Donc quand je les ai contactés, mais je l'ai reçu il y a 3 jours quoi en fait. Hein.
Parce que du coup, en le feuilletant et en juste la couverture et l'univers que ça dégage, moi ça m'a tout de suite fait penser à la saga Aldébaran, Beltéguse.
Oui.
Alors, peut-être pas aussi extraterrestre que ça. Après, je n'ai pas tout feuilleté, mais ça a un peu cet esprit-là.
Oui, tout à fait, oui.
De l'exploration extraterrestre et extra-système solaire, en fait. Mmh.
Là, on reste sur le plancher des vaches aujourd'hui. C'est un roman d'anticipation, hein, plus que de science-fiction. Et en fait, c'est un roman qui parle d'une pandémie. Donc ça rappelle quelque chose à quelqu'un, que il a été écrit avant la fameuse Covid, et donc et ce qu'il raconte à l'intérieur, c'est vachement intéressant parce que tous les débats qu'on a eus pendant cette pandémie. Enfin, c'était en fait Xavier Muller les retrace, mais il les écrit avant, quoi. En fait,
il les anticipe.
Voilà, il les a anticipés. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, c'était ma petite information. Merci pour de m'avoir laissé passer ce message.
Mais de rien, ça parle de BD, il n'y a pas de problème. même si, de toute façon, faut pas hésiter à l'écouter entre les pages, puisque c'est une excellente émission. T'es vachement bien structuré. Enfin, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Donc, c'est.
Donc, voilà. Et pour lequel, il y a un mois, on a reçu l'immense Marc-Antoine Mathieu pour son Deep Hit, son magnifique album, la deuxième tome de la série Deep Hit. C'est vraiment, voilà. Et donc, il était effectivement dans l'émission.
C'est que des grands hommes. Bah oui. Eh ben, on arrive à la toute fin de l'émission. On va se mettre un petit. Okay. That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin d'émission. Ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Il est 19h55. Bah oui. Et puis n'hésitez pas, si ça vous fait plaisir, la porte du studio est ouverte. Si vous souhaitez venir intervenir dans l'émission ou simplement assister à l'émission, n'hésitez pas. Le chat est ouvert si vous souhaitez simplement nous adresser des petits messages. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Richard ?
Non.
T'avais l'air de vouloir dire quelque chose.
Non.
T'as une tête qui voulait.
Bah, vous pouvez venir, mais il n'y a plus de micro, donc.
Il n'y a plus de micro. Mais voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. On a parlé de Totally Spies, on a parlé d'Avatar, on a parlé de Zardo, on a parlé de, j'ai pas retenu le nom.
Kajika.
De Kajika, on a parlé de The Princess and the Barbaric King.
The Wow, j'ai oublié. Warrior Princess and Barbaric King. Oula, pardon.
Wow.
Ah, c'est un lapsus qu'on retiendra.
Fin de semaine, excusez-moi. Là, c'est... Non, on est lundi. Oh, non.
On est lundi.
On est que lundi.
Oula.
En tout cas, ça nous a fait très très plaisir de vous partager ces différentes choses. On aura plein de nouvelles choses à vous partager dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de À Tour de Rôle. La nuit sur Spring Island.
Nuit à Spring Island.
Voilà. J'écoute, ça a l'air bien. Puis l'animateur est cool. Donc, c'est pas mal.
Je le connais, il est pas. Voilà, quoi.
Bon.
Il a son caractère. Hein.
Ouais. Mais il s'achète à coup de pain au chocolat.
Exactement. Un grand coup de pain au chocolat.
Plein visage. Bon allez, fini les âneries. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on s'est bien marré. On se retrouve dans 15 jours pour la case de Sèvres, la semaine prochaine pour les voix du scénarium, et puis dans quelques instants sur le 101.5, sur le www.radio-g.fr en podcast dès que le générique sera terminé. Et puis on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas vos mots et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! About the dark.